L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
À Paris, l'école normale supérieure est en effervescence. Voilà un mois de juin qui augure de beaux jours. Les couloirs sont pleins de jeunes gens qui rient, se congratulent. L'ambiance est particulière. Aujourd'hui, lundi 17 juin 1929, sont tombés les résultats du concours de l'agrégation de philosophie. L'un des plus durs, des plus compétitifs du système scolaire français. Sur un banc est assis un couple. L'un des deux jeunes gens regarde sa montre. Elle affiche 11h. Le couple est sur un nuage. Lui vient d'être reçu major au concours. Elle, seconde. Leur nom ? Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. L'amour, toujours. Et une envie dévorante de liberté les anime. Se séparer l'un de l'autre est déjà chose impossible. Leur relation passionnante, hors norme, magistrale et nourrissante va changer leur destin, et aussi celui de la France. Il est 11h, ce 17 juin 1929, et c'est leur âge de mon histoire. Toute la petite troupe vient d'apprendre les bonnes nouvelles. Cette bande d'amis inséparables forme un véritable contingent d'écrivains et de philosophes qui vont marquer leur temps. Ils ont la volonté de leur jeunesse, mais ignorent encore, bien entendu, toute l'étendue de leur réalisation à venir. Oh, il a beau être major de sa promotion, Jean-Paul Sartre n'est pas dans une totale euphorie. C'est clairement pas son style. Non, lui, il écoute les autres et il bourre sa pipe. C'est le seul, debout, qui parcourt du regard l'assistance devant lui. Assise face à lui, Simone de Beauvoir, elle le regarde avec une admiration à peine perceptible au travers des rayons du soleil grimpant le ciel avec vigueur. Elle est presque aussi grande que lui, alors même qu'elle est assise sur le banc. Le major de promo ne mesure qu'un petit 1,53 m. Elle, presque 15 centimètres de plus. Oh, ils détonnent tous les deux, dans les rues parisiennes de l'entre-deux-guerres. Et ils affichent déjà une complicité qui étonne dans leurs cercles respectifs. Cette rencontre a été comme une évidence et Sartre en venait presque à bénir le fait d'avoir raté une première fois le concours l'année précédente. Alors qu'il craque une allumette qui, par éclat répété, vient brûler le tabac au goût de cannelle tassé dans l'âtre de sa petite cheminée personnelle, son regard croise en retour celui de celle qui a accompli le tour de force de terminer deuxième d'un concours tellement difficile. C'est une performance absolument hallucinante qui prouve, s'il le fallait encore, à quel point elle est brillante. La malice dans le regard, il la félicite sans même avoir à ouvrir la bouche. Pour Simone de Beauvoir, un seul contact visuel avec Sartre permet de tout comprendre. C'est instinctif. L'atmosphère de Paris, elle, est encore à la fête. Chevaux, calèches, vélos et automobiles se côtoient dans un joyeux bordel. La scène est l'arbitre d'une vie quotidienne qui rappelle les fourmilières. Déjà Paris est Paris. Et la France est loin de se douter que la plus grande crise économique est en marche. En octobre, elle plongera le monde dans le noir le plus total. Mais pour le moment, rien de tout ça. Juste de l'amusement et du bonheur, tout simple. La joie de réussir ses études aussi. Étriqué dans un petit costume noir aux lignes blanches, à trois pièces comme toujours, Sartre cache ses yeux plissés et brillants derrière une monture épaisse et ronde. Le soleil, quand il est là, vient se refléter avec force dans ses verres qui lui donnent une aura toute particulière, malgré sa petite taille. Simone de Beauvoir est, comme à son habitude, des plus élégantes. Elle porte les cheveux courts, juste en dessous des oreilles, et un chapeau couleur crème assorti à son tailleur. Un foulard au motif à fleurs vient couronner un ensemble qui fait sensation dans son cercle d'amis. Elle a toujours eu un sens de la mode très particulier, presque avant-gardiste. Et disons-le sans aucune prétention, en ce jour de succès, les deux jeunes gens ne passent pas inaperçus. Ils ont prévu d'aller à la foire de la Porte d'Orléans, où freak show et tir à la carabine sont les activités les plus à la mode. C'est d'ailleurs ce que Simone veut absolument essayer. Sans réellement se concerter, la petite bande se décide à y aller ensemble. Ils prendront le tram. Le long des quais de Seine marchent d'un pas décidé les grands de ce monde de demain. Cette promo du concours de l'agrégation de philosophie de 1929, c'est un condensé de talents aussi brut que les plus purs diamants sortis des joailleries de la place Vendôme. Derrière l'iconique duo se massent Pierre Boivin, Hippolyte Jean, Paul Nauzin. Tous sont des élèves passés au préalable par l'École nationale supérieure. Tous, sauf Simone. Sa deuxième place, elle l'a arrachée au forceps, sans passer par cette école, le moule qui forge la plupart des diplômés. Même Sartre a suivi ses cours, avant de rater l'entrée de peu en 1928. Ben oui, même les génies parfois trébuchent, toujours pour mieux se relever. En sautillant d'un pas léger sur les pavés du parvis de Notre-Dame, qui pose son regard millénaire sur la petite bande en mouvement, le futur virtuose de l'écriture se dit, en regardant Simone, que le destin fait bien les choses. Oh, comme il est cartésien au possible, Sartre ne peut se résoudre à considérer cette rencontre comme un hasard. Et les amis qui sont là avec eux ne pourraient dire le contraire. Soudain, l'un d'entre eux déclenche une course. Sur le trottoir juste avant l'arrêt de tram, c'est une jeunesse partagée entre bonheur et appréhension. Ah, drôle de spectacle que cette bande de coureurs en tailleur et en trois pièces qui traverse à toute vitesse la ville lumière, qui va au moins aussi vite qu'eux. Les passants les plus prudents s'écartent, les autres sont utilisés comme des plots de slalom. Et à ce petit jeu de la course à pied, les jambes de Sartre ne sont pas avantageuses. Les longues échasses de Simone, beaucoup plus. C'est elle, presque comme une revanche, qui s'impose au finish, juste devant l'arrêt. Là, une vieille femme du quartier les toise d'un air désapprobateur. Le rebelle Sartre lui tire la langue avant d'entrer dans le véhicule qui les conduit tous vers la foire, aux portes de la capitale. Simone de Beauvoir aime l'ambiance qui se dégage de ces lieux où tout semble presque possible. Les limites sont repoussées. Les expériences de vie les plus diversifiées se croisent dans un bouillon humain sans cesse renouvelé. Les chapiteaux aux tentures à lignes ne sont pas seulement la marque d'un amusement garanti. Ils sont aussi et surtout le moyen pour elle de s'inspirer, de vivre l'autre, de le respirer aussi. Prendre la température des mots et des humeurs, s'inspirer, découvrir, transpirer, aimer, gagner, perdre. D'exister, en somme. De devenir plus encore que de vivre l'instant présent. Le rêve n'est finalement jamais loin de la réalité dans ces foires des années folles. Le couple ne le sait pas encore, mais il vit la dernière d'entre elles avant le retour des jours sombres. Ceux-là vont durer longtemps. Mais ils ne sont encore qu'une tache infime au lointain d'un horizon bleu et lumineux. Pourquoi se soucier de ce qu'il ne s'est pas encore passé alors même que des hommes canons, des cartomanciennes et des magiciens déroulent devant eux les tours les plus saugrenus, les plus impressionnants? Enfin, voilà le stand de tir. Jean-Paul Sartre a eu vent d'une échoppe en particulier où le simple fait de tirer sur la cible déclenche la prise d'une photo. La photographie vit à l'époque un essor qui n'est pas prêt de s'arrêter. Le major en est à sa troisième pipe de la journée. Il ne sera pas le tireur. Il confie l'arme à celle qu'il aime. À l'intérieur du stand, un homme, le stéréotype du forain de l'époque, leur explique comment manier l'instrument. Grand, balèze, chauve et moustachu, il porte un Marcel blanc taché. Seules ses bretelles et son pantalon trop large pour sa carrure d'ancien boxeur lui donnent un air presque sympathique. Oh bah rien de sorcier, pense Simone, en armant la carabine à plomb et en visant la cible. Derrière ses petits verres ronds, Jean-Paul regarde la cible et pose malicieusement sa main droite sur l'épaule gauche de la jeune femme. En joue, feu, et le coup part. L'appareil photo, lui, s'actionne. Le couple récupère le fameux sésame et se dirige vers le cœur des tentes. Simone a envie d'une pomme d'amour. La photo, devenue culte, existe et circule toujours. Notre histoire commence véritablement au début du mois de mars de l'année 1931. Simone de Beauvoir est alors enseignante à Paris. Elle vient d'apprendre sa nomination dans la deuxième plus grande ville de France, là où trône la Vierge sur le vieux port, Marseille. Oui, mais voilà. Alors que le lycée Montgrand est une référence dans le pays et que, comme tout professeur qui se respecte, elle devrait se réjouir, son moral est au plus bas. Jean-Paul Sartre, lui, a été nommé au Havre. Ah, c'est la grande diagonale, totalement à l'opposé. Alors quoi ? Lui faut-il quitter celui qui lui donne la sensation de vraiment respirer ? Simone est en plein doute. Leur vie à Paris, ces deux dernières années, a été belle, formatrice, libératrice, dissolue aussi. Enseigner pour Simone, c'est un acte fondateur d'émancipation. Elle est celle qui donne la leçon, qui est maître de ses actes, de son enseignement et des messages qu'elle souhaite transmettre à la jeune génération. Alors que sa fonction l'appelle à la retenue et au professionnalisme, sa quête éperdue de liberté la pousse à avoir des aventures avec ses jeunes disciples, souvent encore mineurs. Cela n'empêche pas qu'elle aime profondément Sartre. Si je devais vous l'expliquer avec une métaphore, je dirais qu'ils sont l'un pour l'autre des perchoirs et non des cages. Leur amour est la quintessence même de leur confiance mutuelle et de leur ouverture d'esprit. Le triste et froid mois de mars 1931 leur impose un tournant. Alors qu'elle est en pleine séance de correction de copies, Simone de Beauvoir ne parvient pas à se concentrer convenablement. Elle pense, se torture, rumine. Le dilemme est immense. Sartre vient de la demander en mariage. C'est pour l'instant la seule option qui leur permettrait d'être affectés dans le même établissement et ainsi de pouvoir continuer cette vie trépidante. Pourtant, pour elle, le choix est cornélien, totalement à l'opposé des valeurs d'émancipation qu'elle veut défendre. Elle ne voit pas en quoi le mariage serait une preuve d'amour. Plutôt une oppression, une sorte de contrainte. Contre toute attente, alors que leurs amis, leur famille et Sartre lui-même sont persuadés qu'elle va répondre par l'affirmative, elle repousse sa proposition. C'est un non. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir jamais ne seront mariés, ni devant Dieu, ni devant la nation. Cela n'empêchera nullement les deux jeunes gens de s'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare. Ce refus aurait pu être perçu pour Sartre comme un camouflet, l'incitant à arrêter cette relation. Certains le pousseront d'ailleurs à le faire, mais lui en est incapable. Simone de Beauvoir expliquera ce choix, que l'on peut envisager comme un manque d'amour à l'égard de son alter ego. Bien plus tard, dans son livre « La force de l'âge », publié en 1960, elle reviendra sur cette décision. Elle écrit ceci. « Je dois dire que pas un instant, je ne fus tenté de donner suite à sa suggestion. Le mariage multiplie par deux les obligations familiales et toutes les corvées sociales. En modifiant nos rapports avec autrui, il eût fatalement altéré ceux qui existaient entre nous. Le souci de préserver ma propre indépendance ne pesa pas lourd. Il m'eût paru artificiel de chercher dans l'absence une liberté que je ne pouvais sincèrement retrouver que dans ma tête et mon cœur. » Ce sera donc le Havre pour Sartre et Marseille pour de Beauvoir. Les dés en étaient jetés. La séparation ne sera pas longue. Elle durera une année scolaire. Sincèrement meurtrie par le fait de vivre à si grande distance l'un de l'autre, Simone provoque sa mutation dans un lycée de Rouen. Cependant, l'année passée loin de son aimé sur les bords de la Méditerranée aura quand même permis à la philosophe de se découvrir des passions tout à fait solitaires. Et parmi elles, la randonnée. Cet amour de la nature et des sentiers, elle le gardera pour le reste de ses jours. Lors de chaque trop-plein d'émotions, de chaque dilemme, de chaque dispute, Simone de Beauvoir enfile ses chaussures de grand chemin et s'en va battre la campagne de France. C'est à cette époque, placée sous le signe des retrouvailles, que voit le jour la petite famille. Un ensemble présidé par le couple et composé d'anciens élèves avec lesquels ils ont lié des liens d'amitié qui peuvent aller jusqu'au contact charnel. La nature même de leur accord autorise ce qu'ils vont appeler pudiquement dans leur écrit des amours contingentes, en opposition à celui de stabilité qui caractérise leur propre relation. Les liens qui naissent dans ce cadre sont durables et perdurent dans un temps tout à fait long. De manière très surprenante parfois, malgré les brouilles et les disputes plus violentes qui jalonnent la vie de cette famille aux accents si particuliers, leurs échanges permettent inspiration et réflexion. Nous sommes tout de même en droit de s'interroger quant à la moralité des pratiques du couple Sartre de Beauvoir qui, de par son âge et son vécu, prend l'ascendant sur une bande de jeunes gens encore loin d'être armés comme ils peuvent l'être. Mais les mœurs des années 1930 ne sont pas celles de 2023. Et cet ensemble, très hétérogène, vit et se suffit à lui-même. Jean-Paul et Simone vivent en particulier un trio amoureux avec une certaine Olga, dont Sartre s'est épris. Le maître mot, quoi qu'on puisse penser de cette manière de vivre particulièrement originale et hors norme pour la société de l'époque, est toujours le même, liberté. Dans son essence la plus pure, la plus recherchée, il est impossible de comprendre la vie et l'œuvre de Simone de Beauvoir si l'on n'a pas à l'esprit que deux de ses moteurs principaux sont la liberté et le constant besoin d'émancipation. C'est avec ce même esprit dévorant que les deux jeunes philosophes partent à la découverte de nombreux pays d'Europe, de la Grèce en passant par l'Italie. La jeunesse gagne en expérience en parcourant le monde à grandes enjambées. Et au cœur des années 1930, durant lesquelles émergent le fascisme et l'odeur de la poudre d'une guerre qui s'annonce, eux vivent d'amour et d'écriture. Ce n'est qu'en 1936... alors qu'elle n'y croyait plus, que Simone obtient enfin un poste à Paris. Pour elle, c'est une nouvelle libération. Sa vie sociale est restée très parisienne, malgré les cours qu'elle donne en province. Théâtre, cinéma, flânerie au Jardin du Luxembourg ou au Musée du Louvre. C'est le retour des années folles, qui pourtant sont mortes depuis longtemps. Sartre et de Beauvoir vivent dans l'illusion de bonheur simple et d'une liberté galopante encore. Mais la réalité les rattrape. Alors qu'elle enseigne au lycée Molière, de Beauvoir rencontre dans sa classe Bianca Lamblin, qui tombe sous son charme. Amie, puis maîtresse. Sartre ne tarde pas à les rejoindre pour former ce deuxième trio amoureux qui va durer plusieurs années. Mais il ne fait pas bon de fricoter avec ses élèves et l'enseignante va l'apprendre à ses dépens. Elle est suspendue manu militari par sa direction. La petite Bianca est âgée de 16 ans. Cette première suspension, puis son éviction définitive quelques années plus tard, ont longtemps fait débat. Bianca publiera bien plus tard dans un livre dans lequel elle écrit sa vérité, celle d'une jeune fille dérangée. C'est d'ailleurs le titre de son ouvrage. Ses accusations sont lapidaires. J'ai découvert que Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeune fille une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refiler, ou, faut-il dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre. Ambiance, vous l'entendez. Cette vie amoureuse dissolue, certainement théâtre de manipulation sur des personnes plus jeunes et encore dans la candeur de l'âge, aura raison de sa carrière dans l'enseignement au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Mais son esprit et son regard sont déjà tournés vers d'autres cieux. À 14 ans déjà, elle se rêvait en autrice célèbre. Simone de Beauvoir quitte alors sa peau de professeur pour revêtir celle de créatrice. Sa nouvelle carrière débute à la fin des années 30. Et, tout comme sa vie privée de l'époque, elle ne démarre pas sous les meilleurs auspices.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se penche sur le destin de Simone de Beauvoir. Avant d'être l'autrice à succès et la militante avant-gardiste que l'on connaît, l'agrégée de philosophie fut enseignante. Mais ses pratiques personnelles et sentimentales provoquèrent des remous pour le moins ennuyeux. Ce que l'on peut encore aujourd'hui considérer comme déviance, dans lesquelles son compagnon, Jean-Paul Sartre, joue le rôle principal, ont entraîné sa suspension, puis son renvoi de l'éducation nationale. Celle qui cherchait à écrire des livres depuis longtemps se lance alors à plein temps dans l'écriture. Nous sommes le 30 juillet 1945. La guerre est finie depuis plus de 2 mois. Simone de Beauvoir vient de recevoir le résultat d'un jugement resté en suspens depuis quelques semaines. Elle est réintégrée au sein de l'éducation nationale. Malgré cela, elle ne compte plus jamais enseigner. Ce micmac particulièrement cocasse est né de la plainte déposée par la mère d'une élève pour incitation de mineur à la débauche. C'était en 1943. Et la suspension, d'abord provisoire, s'était transformée en radiation, ce, malgré le non-lieu de la procédure. D'anciennes histoires, en effet, ressurgissent et entachent son image, ainsi que celle de Sartre. Alors, sur la fin de la guerre, de Beauvoir s'est mise à animer des émissions culturelles sur Radio Vichy, la plateforme officielle du régime incarné par Pétain. Elle a aussi enfin lancé sa carrière d'autrice. Son premier roman, rédigé en 1937, est refusé par Gallimard, qui accepte cependant de publier son deuxième, L'Invité. Nous sommes alors en 1943, l'année de sa suspension. Et au travers de personnages fictifs, Simone évoque en double lien son trio amoureux, tout en développant en profondeur les thématiques de la lutte des consciences et les fondements de la réciprocité. Une œuvre qui fait date et qui l'insère dans le paysage littéraire. Et ce 30 juillet 1945 est, plus encore que le point final d'une affaire judiciaire longue de plusieurs années, le fondement d'une nouvelle ère. Avec son compagnon et d'autres intellectuels, Simone décide, autour d'un repas dans une brasserie parisienne, de fonder la revue « Les temps modernes ». Également publiée par Gallimard, elle permet à de Beauvoir de s'affirmer et d'enfiler un nouveau manteau, celui de la femme de lettres engagée. À gauche toute. Proche des mouvements communistes, Simone de Beauvoir prend la direction de cette revue, qu'elle ne quittera qu'à sa mort en 1986. Son activité au lancement de ce projet est fondatrice. Elle lui donne les armes nécessaires pour devenir, au-delà d'une romancière, une artiste totalement engagée dans les causes qui lui semblent justes. Boris Vian et Raymond Aron sont alors à ses côtés. Et l'émulation d'idées qui en découle est l'état d'esprit qu'elle recherche particulièrement. Ses articles, essais et romans seront tous le fruit de cet engagement qui aussi, entre la quête de la perfection incarnée par le communisme, un athéisme farouche né durant son adolescence, son éducation l'a pourtant poussée à devenir une fille de Dieu aussi pieuse que sa mère, et surtout, la défense de l'existentialisme. Alors, Kezako, vous allez me dire. Ce mouvement, hérité des Nietzsche et autres Dostoïevski, est tout à fait en phase avec sa quête permanente de liberté et d'émancipation. Oh, pour vous la faire courte, l'existentialisme est un courant de pensée qui considère que l'homme, avec un grand H, forme l'essence de sa vie au travers de ses actions, sans aucun déterminisme religieux ou social. Chaque individu est donc unique et maître de ses actes. Ses écrits lui permettent d'acquérir la renommée qu'elle recherche et elle peut ainsi se permettre de voyager. Elle rencontrera nombre de leaders communistes à travers le monde. De Mao à Castro. Joli panel de dictateurs. Mais la consécration, elle, n'est toujours pas arrivée. Elle va venir. À la fin des années 40, de Beauvoir décide d'embrasser avec force la cause féministe. Elle publie en 1949 Le deuxième sexe. Le succès est triomphal. La prise de conscience, salvatrice. Simone de Beauvoir devient un mythe vivant pour toute une génération de militantes. Le deuxième sexe est un ouvrage majeur dans la genèse du féminisme en France. De Beauvoir songe l'écrire dès 1946-1947, prenant alors ses premières notes et en discutant d'abord avec Sartre. Dans son livre « La force des choses », publié bien plus tard, elle évoque par ces mots la genèse du projet. « J'avais du goût pour les essais martyrs, où on s'explique sans prétexte. Je commençais à y rêver, à prendre quelques notes et j'en parlais à Sartre. Je m'avisais qu'une première question se posait. Qu'est-ce que ça avait signifié pour moi d'être femme ? Pour moi, dis-je à Sartre, ça n'a pour ainsi dire pas compté. Tout de même, vous n'avez pas été élevé de la même manière qu'un garçon. Il faudrait y regarder de plus près. » Je regardais et j'eus une révélation. Bingo ! La philosophe décortique des siècles de mœurs et de coutumes, analyse les us et vient les percuter de plein fouet. Le deuxième sexe. Au-delà d'un constat sur la situation des femmes à la sortie du deuxième conflit mondial, à l'aube du droit de vote et des prémices de la bataille pour l'IVG, s'inscrit dans un plan philosophique plus large. Les références fusent comme des fusées de feu d'artifice, qu'elles soient historiques ou sociologiques. Pour Simone, aucune femme n'a de destin tout tracé. Elle s'attaque donc autant à l'infériorisation de la femme comme état de fait qu'à ses causes. Et, plus surprenant encore, elle en tient les femmes presque autant responsables que les hommes. Les femmes, selon elle, sont trop passives, soumises, pas assez ambitieuses. Elle n'en oublie pas pour autant le sexisme et la lâcheté des hommes. Et fait deux conclusions. Petit 1. Sans concordance de la lutte partagée entre les femmes et les hommes, pas de résultat possible. Petit 2. L'émancipation de la femme ne pourra se faire qu'avec son arrivée massive sur le marché du travail et surtout grâce au contrôle des naissances. Position est claire, limpide. L'autrice milite pour le droit à l'IVG, ce qui, disons-le, est particulièrement marginal et courageux pour l'époque. Simone de Beauvoir fait partie de ses premières lignes de combattantes en France. Et son essai va lui permettre de passer à la postérité, car il reste encore aujourd'hui une référence absolue en matière de philosophie féministe. Avec 1 million d'exemplaires vendus, 22 000 dès la première semaine. Des polémiques et des levées de boucliers à tout va, de Beauvoir devient une superstar. Elle incarne la figure de proue du féminisme, se battant contre une société qui maintient la femme dans un statut inférieur à celui des hommes. Bientôt, elles seront deux. La deuxième s'appelle Simone Veil. Ce combat ne sera gagné que le 17 janvier 1975, lors de l'institution de la loi Veil. Rendez-vous compte. Près de 25 ans après la publication de son essai. Une éternité de lutte et de publication. Ah, il faut dire qu'elle renverse la table d'une société qui, à l'époque, résonne d'une manière totalement différente, pour ne pas dire archaïque ou machiste. À vous de voir. Oser parler de maternité et d'avortement, tout simplement perçu comme un meurtre à l'aube des années 1950, est très osé. Le comble étant de le faire au travers d'un essai philosophique publié par une femme. Je vous laisse imaginer. De Beauvoir enfonce le clou dans l'un de ses derniers chapitres, où elle explique que pour elle, le mariage n'est qu'une tradition bourgeoise tout à fait répugnante lorsque la femme est sous la domination de son mari, allant jusqu'à comparer alors la relation maritale à de la prostitution. Rien que ça. Mais bien que le combat féministe en France ne soit pas près de se terminer, puisqu'il faudra plus de 20 ans à l'Assemblée pour voter une loi sur l'avortement, elle continue de revêtir sa tenue d'autrice engagée pour d'autres causes. Celle qui est proche des idées de l'extrême gauche accueille avec joie la libération des pays colonisés, qui prennent tour à tour leur émancipation et se saisissent de leur liberté. Elle apprécie beaucoup moins les répressions qui ont lieu en Algérie. En 1960, son manifeste des 121 apparaît comme une œuvre fondatrice pour tout peuple ayant la volonté d'exercer son droit à disposer de lui-même. Ce droit à l'insoumission qu'elle défend, en prenant fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie, la pousse là encore contre le vent de l'opinion dominante qui considère encore le pays nord-africain comme un département français à part entière. Finalement, De Gaulle, dans un discours resté célèbre, ponctué de la formule iconique « Je vous ai compris », ira dans le sens des révolutionnaires, en leur accordant ce qu'ils demandent. L'indépendance est donc, au bout du compte, l'émancipation. Depuis 1954 et la publication du livre « Les Mandarins », grâce auquel elle a remporté le prix Goncourt, Simone est l'une des stars mondiales de la littérature. Elle grimpe régulièrement sur le podium des écrivains les plus lus dans le monde. C'est la consécration. Les années 1960 sont pour elle une décennie de publications au succès retentissant, où elle évoque les mêmes thématiques qui ont fait son succès. Sartre est, lui, totalement sous le charme de ses prises de position. Il qualifiera « Une mort très douce », publiée en 1964, comme étant son travail le plus abouti. Cette œuvre est le moyen pour De Beauvoir d'évoquer la mort de sa mère et, fait tout à fait novateur pour l'époque, de prendre position pour la fin de l'acharnement thérapeutique. Elle plaide pour la nécessité d'une évolution de la mentalité collective concernant l'aide médicale à mourir. La France en est toujours là, près de 60 ans après sa prise de position. Cet esprit vif et à la pointe des évolutions sociétales, verra de son vivant certains de ses combats être remportés avec brio, alors même que la vieillesse, elle, pointe le bout de son nez. Au moment où se profilent ces dernières années, ses chantiers de travail se font nombreux. Entre reconnaissance de l'IVG et mort de Jean-Paul Sartre, vous allez le voir, la philosophe au drapeau rouge n'en a pas fini avec les prises de position.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H nous conduit au cœur de la vie de Simone de Beauvoir. Essayiste, philosophe, icône féministe et compagne d'un génie de son temps, Jean-Paul Sartre. De Beauvoir est une femme engagée au tempérament de fer. Ses prises de position sur la condition féminine, sur le droit à une mort dans la dignité et sur le droit à l'avortement en font une pionnière. La combattante la plus en vogue des mouvements pour les droits humains. Ses écrits passent les uns après les autres à la postérité. Et la vieillesse qui rattrape cette femme n'entame en rien ses actions et ses écrits coup de poing. Nous sommes à la fin du mois de novembre 1980. Il pleut sur Paris. Au numéro 11 bis de la rue Victor Schœlcher, Simone est malheureuse. Son amour de toujours, le philosophe Jean-Paul Sartre, est décédé le 15 avril, à l'âge de 74 ans. Et, comme lors de chaque malheur de sa vie depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, Simone écrit pour se réconforter. pour exposer des vérités aussi. Les dernières années de la vie de Sartre ont été difficiles, médicalement, intellectuellement parlant. Fatigué, l'homme s'est éteint paisiblement, le tout cependant après un parcours difficile. Et elle achève ce soir son ouvrage consacré à cette période. Il est autobiographique. Le titre ? La cérémonie des adieux. Les gouttes de pluie se fracassent sur les carreaux de son bureau. La faible lueur de la lampe posée sur le meuble sur lequel Simone a écrit la plupart de ses chefs-d'œuvre luit comme la flamme d'une passion qui s'éteint. Elle couche sur le papier, en guise de point final, ces quelques mots. Sa mort nous sépare, la mienne ne nous réunira pas, c'est ainsi. Il est beau déjà que nos vies aient pu si longtemps s'accorder. L'athéisme, toujours. Même la mort de l'amour de sa vie n'aura pu la réconcilier avec Dieu. Ses principes chevillés au corps, elle sait que la publication de cet ouvrage aura l'effet d'une bombe. Et elle ne se trompe pas, Simone de Beauvoir. Sartre est mort en ayant un nombre très important de disciples et d'admirateurs. Il était le professeur. Il représentait la quintessence du philosophe pour bon nombre d'auteurs et d'étudiants. La publication de sa compagne va les décevoir, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, elle est particulièrement explosive. L'ouvrage retrace la dernière décennie de l'intellectuel. Les détails y sont crus, exposés sans aucune retenue. Ils sont intimes aussi. De quoi provoquer des vagues d'indignation. À la suite de cet ouvrage, Simone de Beauvoir publie aussi une retranscription d'entretiens réalisés tous deux à Rome en 1974. Là encore, l'objectif peut ne pas paraître noble. Si le philosophe retrace sa vie et son œuvre, éclaircissant certaines prises de position, l'objectif de ce travail pour Simone de Beauvoir est de montrer qu'il était manipulable et qu'il était diminué les dernières années de son existence. Elle y dénonce les agissements de la fille adoptive de Sartre à son égard. En bref, c'est le grand déballage. Et la question que l'on se pose, finalement, porte sur la nécessité d'un tel écrit. Était-ce bien utile, bien raisonnable ? Peut-être pas. À bien y regarder, la fin de sa carrière est jalonnée de prises de position de plus en plus radicales. De victoires aussi. Simone est à l'origine du mouvement Choisir en 1971, qui ouvre sur la victoire de 1974 relative au droit à l'avortement. Elle se bat avec succès là aussi, aux côtés de Gisèle Halimi pour la reconnaissance des tortures des femmes en Algérie et durant la guerre. Son manifeste des 343 marque sa fin de carrière. Mais les prises de position polémiques se multiplient à compter des années 1975. En 1977, elle est l'une des chefs de file d'un mouvement visant à faire libérer le terroriste Bruno Breguet. Mouvement qui parviendra à ses fins. Membre du groupe terroriste de Carlos, l'homme n'est pourtant pas un enfant de cœur. Nouvelle polémique la même année où elle signe une tribune de Gabriel Matzneff, plaidant la relaxe de trois hommes accusés par la justice d'attentats à la pudeur sur des mineurs de moins de 15 ans. Tiens, tiens. La fin de vie de la littéraire n'est donc pas une période des plus simples. Elle se radicalise aussi, notamment au sujet du féminisme. Rédactrice de plusieurs revues, directrice de certaines d'entre elles, Simone de Beauvoir s'éteint en 1986, chez elle, à Paris, à l'âge de 78 ans. Elle repose aujourd'hui au cimetière Montparnasse, juste à côté de son grand amour, Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir aura eu une vie de militante, se battant avec acharnement pour les principes qui lui tenaient à cœur, et ce, tout au long de sa vie. Toujours en première ligne, visitant des usines, rencontrant parfois les cadres des entreprises dans le but de faire avancer la situation des ouvrières. Elle n'a jamais abandonné, portant en étendard la cause des femmes et celle de leurs droits fondamentaux. Si nos sociétés d'aujourd'hui ont évolué et continuent de le faire avec nécessité sur la place des femmes, elle y est incontestablement pour quelque chose. Depuis sa parution, son livre phare, Le deuxième sexe, est un manifeste à la nécessité de la gente féminine à agir pour gagner ses droits. Elle est de celles qui ont agi à un moment crucial, durant lequel le droit à l'IVG a été gagné de haute lutte. Si Simone Veil y apposa son nom, l'autre Simone y est aussi assurément pour quelque chose. Sa relation mouvementée avec Sartre en a fait l'un des couples les plus iconiques du siècle dernier dans l'univers intellectuel parisien. Ils se sont nourris l'un l'autre d'inspiration et de thématiques à traiter. Des muses mutuelles, en quelque sorte. Leur vie privée, déviante, voire particulièrement gênante sur certains points, ne peut être éludée. Les génies aussi, ont des faces sombres. Simone de Beauvoir, elle, aura vécu selon ses principes, à la recherche d'une liberté et d'une émancipation absolue, loin des codes et des déterminismes sociaux. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation qui lui est attribuée. Peu avant le vote de la loi Veil, Simone de Beauvoir est en compagnie de Claudine Monteil, une écrivaine et historienne. La jeune femme, alors âgée de 24 ans, se réjouit du discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale. Claudine raconte. Un jour, en 1974, alors âgée de 24 ans, je m'exclamais « Simone, nous avons gagné !» Son visage se ferma. « Certes, Claudine, nous avons gagné, mais temporairement. Il suffira d'une crise politique, économique et religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. » À l'heure où certains États américains remettent en cause le droit à l'avortement et où certains régimes en Europe sont proches de leur emboîter le pas, les mots de Simone de Beauvoir doivent continuer de nous alerter, encore, sur les progrès à réaliser pour la cause des femmes et pour leur libre droit à disposer d'elles-mêmes. Voilà donc pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous, grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.